Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et on débute ce grand direct ce soir avec Elena. Nous voyageons au désert du Sahara pour rencontrer le peuple sahraoui, peuple bédouin du Sahara occidental, dans le nord-ouest de l'Afrique. Un territoire victime d'un conflit qui dure depuis plus de 40 ans.
Oui, Fabien, malheureusement. Le Sahara occidental était une colonie espagnole jusqu'en 1975. Et au cours de cette année, l'Espagne, qui à cette époque, c'était dans une période interne très délicate, rappelons-nous que Franco meurt cette même année, délivre le territoire sahraoui au Maroc et à la Mauritanie. Cet accord est connu comme la déclaration entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie sur le Sahara occidental, daté du 14 novembre 1975. Ce document, il est aussi connu sous le nom de accord tripartite ou accord de Madrid.
Et après cet accord, qu'en est-il du peuple sahraoui ?
Après cet accord, c'est le Maroc qui envahit définitivement le territoire du Sahara occidental et la population est obligée de s'enfuir en territoire algérien dans des campements de réfugiés qui continuent d'exister depuis 1975.
Et il n'y a pas de résistance de la part des Sahraouis ?
En raison de l'invasion marocaine, se crée un groupe de résistance appelé Front Polisario, acronyme de Front Populaire de Libération de Sahria, El Amra et de Rio de Oro. Ce front parvient donc à récupérer une partie du territoire sahraoui, mais c'est vraiment qu'une petite partie, et il le gouverne actuellement. Cependant, la majorité, il est toujours occupé, et les Sahraouis, ils restent dans les camps de réfugiés situés sur le territoire algérien.
Depuis le Palais des Nations Unies de Genève, Elena a pu rencontrer pour nous Omeima Abdeslam, représentante du Front Polisario devant l'ONU. On les écoute.
Bonjour Omeima.
Bonjour.
J'aimerais bien profiter du fait que tu sois là pour que tu puisses me exprimer déjà qui est le peuple sahraoui. Parce que souvent les gens ne savent pas de l'existence de Sahraoui.
Donc le peuple sahraoui, c'est un peuple bédouin qui parle l'arabe ou le hassaniya comme sa deuxième langue. C'est un dialecte qui est le plus vieil des dialectes arabes. Et c'est un peuple qui, depuis des années, lutte pour son droit à l'autodétermination. C'est un peuple qui a décidé de ne pas accepter l'imposition d'une solution, ni l'occupation, ni l'impérialisme.
Pourquoi il lutte ? Qu'est-ce qui se passe dans son pays ?
Donc voilà, le Sahara occidental, c'est la dernière colonie en Afrique. Pour les Nations Unies, c'est un territoire non autonome. C'est occupé maintenant par le Maroc, illégalement. Il n'y a aucun pays qui appartient aux Nations Unies qui reconnaît l'occupation marocaine au Sahara occidental. Donc le peuple sahraoui lutte pour son droit à l'autodétermination, pour son droit de choisir la façon de gouverner soi-même et de disposer de ses ressources.
Donc, comment il organise cette lutte ?
Donc, depuis les années 70, nous avons organisé toute notre lutte pour finir premièrement avec le colonialisme espagnol. Et après, on a continué notre lutte contre le colonialisme marocain. Donc, c'est une situation très triste que mon peuple a vu que c'était imposé cette façon de vivre sous l'occupation, toujours. Donc nous sommes organisés à cause de ce conflit, le peuple sahraoui s'est dispersé. Donc il y a une partie du peuple sahraoui qui sont réfugiés en Algérie, à Tindouf, dans le désert. Donc là, il y a tout un État en exil. Il y a les gouvernements, il y a les écoles, il y a les Sahraouis, à peu près 173 000 Sahraouis qui sont réfugiés en Algérie. Il y a une autre partie qui se trouve dans les territoires libérés. Et il y a une autre partie, la majorité, qui se trouve sous l'occupation marocaine. Donc, en dessous de l'administration marocaine. Donc, nous sommes organisés pour lutter contre cet colonialisme depuis les premières années de 70. Donc, on a créé notre propre république. C'est la République arabe sahraoui démocratique. C'est une république qui est membre fondateur de l'Union africaine. Et le Polisario, c'est le mouvement reconnu par les Nations unies qui lutte et qui représente le peuple sahraoui aux instances internationales. Donc, pour les Nations Unies, les Frontes Polisarios, c'est le mouvement qui lutte, qui fait partie de conflits de Sahara occidental. Et le Maroc, c'est une puissance occupante. Et nous, on lutte pour notre droit à l'autodétermination. Donc, le peuple sahraoui, c'est un peuple qui a une religion musulmane très, très light. Ils ne sont pas des radicaux. Il y a une position de la femme très développée, très progressiste. Ce sont des femmes qui sont présentes dans toutes les demandes de la vie quotidienne sahraoui. Elles sont très visibles. Nous, dans notre culture, les Sahraouis, nous, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est la violence contre les femmes. Par exemple, quand une femme elle est divorcée, nous, on lui fait une fête. Pour nous, c'est une façon de la stimuler, de l'accompagner dans cette situation qu'il vécu. Et vraiment, c'est un peuple spécial qui a décidé de s'unir autour de Polisario pour lutter contre l'occupation marocaine.
Oui, parce que tu as dit que c'était un peuple bédouin à la base.
Oui.
Donc,
oui.
Quand il y a eu l'occupation marocaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réunis sous le Frente Polisario?
Exact. On a décidé le 12 octobre 1975, quand oui. Le Maroc a invadi notre territoire, de faire, on appelle ça la... jour de la Union nationale. Donc, toutes les Sahraouis, ils ont réuni autour de Polisario pour lutter contre l'occupation, contre l'agression étrangère de n'importe quel type. Et après, là, on a décidé de supprimer le système tribal, le système bédouin, et on a instauré tout un système très progressiste de participation démocratique de la population dans toutes les domaines politiques et sociaux dans la vie. Donc, tout le monde il est dans le système. Et toutes les autres qui viennent, ils sortent de façon pyramidale, dans les deux sens.
Oui.
Donc il y a une grande communication avec notre dirigeant et il y a un congrès chaque 4 ans qui on réélue notre dirigeant pour nous représenter dans l'extérieur. Et c'est le peuple qui gère sa politique.
Et c'est où le siège du gouvernement? Vu que oui. Le Sahara occidental, il est occupé pour une bonne partie.
Le siège, c'est à Bir Lhelou. C'est une ville libérée du Sahara occidental. Mais toute la partie administrative du gouvernement, il est dans les campements.
Donc, okay. Donc en Algérie.
Exact, en Algérie.
Ok. Ouais. Et qu'en est-il de la population sahraoui qui se retrouve dans les territoires occupés par le Maroc?
Qu'est-ce On ne sait pas parce que ce sont des citoyens qui se trouvent sous l'occupation. Donc le Maroc n'a jamais fait sortir aucune date. On ne sait pas combien ils sont. On a à peu près l'approximation de chaque 4 Marocains, il y a un sahraoui approximativement. Donc le Maroc a vraiment fait une sorte de noyer la population démographique sahraoui pour les colons marocains. Et pour faire un changement démographique très grave dans la vie quotidienne des Sahraouis. Et c'est une population qui est considérée dans leur propre territoire comme des citoyens de deuxième classe. Donc, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas s'organiser, il ne peut pas faire de manifestations. Ils sont réprimés seulement pour le fait d'être Sahraoui. Et seulement pour vous donner une idée, c'est dans les années 75 jusqu'à 2015, le Maroc a mené une politique de génocide contre notre population. Donc vraiment, on a des centaines de disparus, on a des centaines de morts, on a des centaines de personnes qui ont été obligées à quitter le Sahara occidental à cause de la répression qu'ils souffraient. Et vraiment, le Maroc a commis un génocide chez les Sahraouis, pas seulement le génocide physique contre les Sahraouis, mais aussi contre la culture sahraoui. Par exemple, maintenant, les Sahraouis, on ne peut pas avoir les noms de la façon traditionnelle sahraoui.
C'est comment la façon traditionnelle?
Donc chez nous, notre cerveau commence à travailler quand je te dis, moi je suis Fulana, le nom de la personne avec le nom du père, des grands-pères et des grands-pères. Avec 3 grands-pères, automatiquement, on t'est ubique dans les maps
oui.
géopolitiques. On sait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que fait ta famille, ta position sociale, tout ça. Donc le Maroc a changé tout ce système et a imposé. De façon arbitraire, la façon de nomenclature française. Donc, c'est les noms et les prénoms.
Oui.
Et vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé des noms très dégradants aux Sahraouis qui ne savaient pas cette façon de nommer. Par exemple, il y a quelqu'un qui l'a appelé la salle. et l'autre il l'appelait la pierre, et l'autre il l'appelait comme des papiers. Ouais. Des choses comme ça qui n'ont rien avec notre culture et qui vraiment changent. Donc, autre chose aussi qu'ils font les Marocains et qu'on fait toujours, c'est d'éliminer quelques types de noms. Par exemple, Lala, Sid Ahmed, tous les noms composés comme Sid Ibrahim, comme Mohamed, Ahmed Salem, tous les noms composés des deux noms. Et tous les noms qui, par exemple, comme la République, parce que nous sommes des révolutionnaires et on aime appeler notre fille la République, la Révolution, ça c'est interdit. Ouais. Tu ne peux pas faire ça. Et il y a beaucoup de noms qui ont été vraiment écartés et tu ne peux pas mettre ces noms à tes enfants. Donc, c'est une lutte chaque jour de survie dans tous les côtés, dans les campements de réfugiés, les peuples sahraouis survivent parce que nous dépendons 100% de l'aide internationale pour survivre dans les conditions d'exil. Dans les territoires libérés aussi et dans les territoires occupés, c'est pire. Donc vraiment, mon peuple essaye de survivre dans un monde qui si tu n'es pas dans les médias, tu es presque oublié. Donc mon peuple, c'est un peuple oublié. Malheureusement, on n'a pas de bons amis dans les conseils de sécurité. Et c'est pour cela que malheureusement, mon peuple trouve que sa situation et des solutions de conflit sahara-occidental s'est bloquée depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul processus de paix qui a plus de 28 ans. Et c'est vraiment la honte pour la communauté internationale.
Et d'ailleurs, si ça fait autant de temps, qu'en est-il des aides internationaux qui arrivent dans les campements des réfugiés?
Il y a une fatigue. Okay. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, il y a une fatigue des donateurs.
Ouais.
Et ce n'est pas parce que les Sahraouis, on a pris trop de temps de résoudre les problèmes, c'est la communauté internationale qui vraiment n'a pas une volonté politique pour résoudre un problème. Donc, il y a une responsabilité aussi d'alimenter et de prendre en charge ces réfugiés. Donc, la communauté internationale ne veut pas savoir des réfugiés, mais aussi ne fait pas trop d'efforts pour résoudre un conflit qui a déjà, nous sommes plus de 45 ans dans ce conflit-là.
Et dans ce sens, vous, Omaïma, vous êtes représentante du Frente Polisario ici aux Nations Unies.
Oui.
Donc, quel est votre rôle ici aux Nations Unies par rapport à que ces négociations y mènent à bon port pour le peuple sahraoui?
Mon rôle ici, c'est diriger une office d'information sur le conflit sahraoui, donc avoir un contact avec les différentes procédures spéciales sur les violations des droits de l'homme qui occurrent au Sahara occidental. C'est préparer les différents conseils des droits de l'homme, préparer la délégation qui vient ici. C'est aussi avoir un contact direct avec les partis politiques, les parlementaires et la société civile suisse. Et tout ce rôle-là qu'on a, c'est essayer d'informer à la société civile, à la société suisse, sur le conflit du Sahara occidental.
Oui. Et par rapport aux négociations, comment vous dites que ça bloque? Ça bloque pas depuis un jour, ça bloque depuis 28 ans.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a eu récemment, justement, ça a recommencé ce...
Oui, le 5 et le 6 décembre de 2018. Il y a eu ici à Genève une grosse réunion des parties de conflit. C'est les Sahraouis et les Maroc avec les partis observateurs de l'Algérie et les Marocains. C'est la première fois qu'ils ont réuni depuis 6 ans des blocages. Et donc, ils ont accordé qu'ils vont avoir une deuxième réunion dans les 3 premiers mois de cette année, de 2019. On espère aussi qu'aujourd'hui, il y a une réunion dans le Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental. On espère que la communauté internationale se réveille pour résoudre cette dernière colonie en Afrique. Ce que nous en demandons, ce n'est pas impossible. On ne vous demande pas des bombes. On ne vous demande pas de l'argent. On vous demande de nous permettre de s'exprimer. Ce que vous voulez, les Sahraouis, on va le respecter. Si ils votent d'être partie du Maroc, on va le respecter. Mais s'ils votent pour l'indépendance, il faut aussi le respecter.
Oui. Et moi, j'ai... Dernière question, parce qu'en analysant le territoire en fait, qui est actuellement occupé par le Maroc, nous savons que c'est un territoire très riche.
Oui.
Ce n'est pas simplement un bout de désert.
Oui.
Il y a du phosphate, il y a du pétrole.
Il y a 1100 km de côte.
Oui. Il y a une pêche très fantastique.
Très, très riche.
Et actuellement, ce territoire, il est exploité pas simplement seulement pour le Maroc, mais également par énormément d'entreprises étrangères, européennes entre autres, et aussi d'Amérique. Et qu'est-ce qui ferait le Frente Polisario s'il obtiendrait ce pays, s'il y aurait l'indépendance? Qu'est-ce qui s'en aurait-il de ces ressources?
Oui, on va s'assurer de bons voisinages avec notre voisin européen. on va s'assurer des bons partages de cette ressource naturelle. Mais nous sommes étonnés de voir que les législateurs, les parlementaires européens qui sont maintenant dans les parlements, ils ont voté il y a 2 ou 3 semaines pour faire une sorte d'accord commercial avec le Maroc, avec l'inclusion illégale des Sahara occidentales. Vous rappelez que la Cour de justice européenne a dit que le Sahara occidental, c'est un territoire distant du Maroc. Donc pourquoi les législateurs européens font une bêtise comme ça? C'est parce que les relations qu'ils ont avec le Maroc sont des relations basées sur le chantage.
Donc, c'est une sorte de chantage.
Parce que le Maroc, chaque fois que l'Europe fait quelque chose que le Maroc ne veut pas, donc il dit on va ouvrir les griffons de la migration, on ne va pas faire la coopération avec vous sur le terrorisme, la drogue. Donc, c'est une relation qui vraiment les Européens ont peur du Maroc. Donc, pour moi, je vois une casseur dans les valeurs européennes très, très, très graves. Parce que les députés européens, ils font des choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, mais ils le font dans le cadre de l'Union européenne. Et ça, vraiment, c'est très, très, très dangereux. Nous, bien sûr, on va continuer à utiliser tous les moyens pour lutter pour notre droite. Un de ces moyens, c'est de prendre cet accord quand ils seront publiés dans les boîtes de l'Union européenne. À la Cour de justice européenne, on va voir, on va essayer de les vraiment de bloquer.
Vous allez jusqu'à la Cour de justice?
Oui, on va continuer. C'est là, c'est notre droit. On va le faire. Jusqu'à toujours, on va le faire.
Merci beaucoup, Omaima. J'espère que vous allez un jour avoir justice depuis autant d'années.
Je crois que le peuple sahraoui a tellement donné, a tellement souffert, que c'est le moment de faire de justice au peuple sahraoui.
Oui, absolument. Merci.
Le peuple sahraoui nous occupait ce soir d'En Vivre à Lausanne. Et pour mieux comprendre ce sujet, nous vous invitons à venir en découvrir davantage ici à Pôle Sud, avenue Jean-Jacques Mercier numéro 3 à Lausanne, le vendredi 22 février à 20h30. Elena et Omaima Abdeslam seront présentes pour nous rencontrer et nous raconter plus en profondeur ce sujet à l'aide de la projection vidéo de 3 caméras cachées, un documentaire de Rafilm et Équipe Média sur la situation du peuple sahraoui dans les territoires occupés par le Maroc. Rendez-vous donc le 22 février à 20h30 ici à Pôle Sud. Merci beaucoup à Omaima Abdeslam, représentante du Front Polisario devant l'ONU, et à Elena pour la préparation minutieuse de ce dossier. Un sujet à retrouver avec les liens sur notre site www.django.fm.
Thank you. ولا سي سوينو لينا الوقت انتاز سوينو لينا الوقت انتاز
reste dans le Sahara avec ce groupe malien, enfin ce chanteur malien, Tina Riven, pour vous sur Radio Django et Radio La Fabrique. Voici La Rose des Vents.